Lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc 4, du verset 35 à 41. Le soir de ce jour même, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples amenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques l'accompagnaient. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que, déjà, elle se remplissait d'eau. Jésus dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Jésus réveillé, menaça le vent et dit au lac, « Silence, tais-toi !» Alors, le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui donc est celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent? Amen.
Merci Marie-Antoinette, c'est ce qu'on appelle de la littérature d'anticipation. Effectivement, dans ce texte, les circonstances tranchent avec ce qui précède. On se retrouve en pleine tempête alors que rien ne l'annonçait juste avant. C'est souvent comme ça dans la vie, on ne la voit pas arriver. C'est vrai que cette image de la tempête est évocatrice pour nous. Elle nous renvoie à n'importe quel type de chaos qui vient, implacable, inévitable, tout à fait certain. Elle est là. On voit bien la tempête arriver quand les signes décidément ne trompent pas, mais on ne sait pas très bien d'où elle est partie. Et une fois la tempête lancée, on ne voit pas très bien non plus ce qu'il faudrait faire pour l'arrêter. Pas de mal donc à trouver toutes sortes d'applications à l'idée de tempête. Les bouleversements climatiques et politiques en préparation en donnent une expression particulière certainement, entre autres, que ce soit dans le monde entier où les effets de ces changements entraînent déjà des conséquences globales, ou bien que ce soit à notre échelle nationale ou continentale où les processus en cours donnent l'impression que nous sommes peut-être en train de passer à autre chose, comme on dit, sans qu'on sache exactement ce que serait cette autre chose. D'un autre côté, les guerres en cours sont aussi des processus longs, dont le début est déjà indistinct, sans parler de la fin qui n'apparaît jamais clairement. Vous savez, on entend souvent dire une guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait pas quand ni comment elle finit. Eh bien, je crois que c'est à moitié vrai. On ne sait pas non plus ni comment exactement elle a commencé. On ne s'en souvient presque plus. Parfois, on sait seulement que bien des étapes précèdent le moment où la première balle est tirée. Certains philosophes politiques, comme Hobbes, estiment que la guerre, c'est l'état normal et constant de l'humanité, la paix n'étant qu'une exception heureuse et tout à fait provisoire. Notre état de nature, c'est la bestialité, d'où le besoin d'un cadre vigoureux, garanti par un état solide. Rousseau a préféré nous dépeindre comme bons de nature, peut-être sans nous expliquer tout à fait clairement comment des hommes bons peuvent se transformer en chiens méchants qui s'entre-dévorent dès qu'ils se mettent ensemble, alors qu'ils seraient tout gentils si chacun restait à sa niche. Mais Rousseau avait lui aussi senti ce besoin d'un contrat pour nous faire tenir ensemble. Et évidemment, parce qu'il est déjà écart, je ne vais pas trancher ici ce débat complexe, mais tous ceux qui ont observé, en tout cas, en leur siècle troublé, eux aussi, les sociétés humaines ont vu la possibilité constante de la tempête. Ce que nous vivons dans notre partie du monde nous donne bel et bien cette impression d'un temps qui d'un temps qui se gâte. On voit quelque chose arriver. On ne sait pas d'où viennent ces coups de vent, un peu comme dans le récit de Marc, mais ils remettent en cause notre vie au point de nous donner le sentiment de perdre pied, comme les disciples dans la barque. Nos filets de sécurité, pourtant réputés solides, n'ont pas l'air de pouvoir toujours résister à tout. Et pourtant, l'élément constant des récits, malgré le danger et la mort omniprésente, malgré le risque de basculement, c'est la présence divine au milieu même des périls, malgré les dégâts considérables causés par une mer en furie. Présence, mais danger tout de même. Nous savons bien que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit, ce qui ne nous empêche pas de nous demander comment réagir lorsque les vents sont contraires. Par un récit de miracle, Marc nous conduit directement dans une zone de turbulence pendant la traversée d'un lac le soir dans une barque. Pour Marc, et c'est conforme à tout ce qu'on trouve ailleurs dans la Bible, l'eau, cette eau-là en tout cas, est perçue comme la possibilité d'un chaos, une perdition toujours constante. On se contente de naviguer dessus, et encore, quand elle est calme. Certains ont voulu voir dans ce lac agité une image de l'Église brinque-ballée par les persécutions et les épreuves. Nous ne connaissons, là où nous sommes en tout cas, ni hostilité déclarée aussi forte, ni persécution manifeste, même si des autorités toujours plus vétilleuses, soupçonneuses et procédurières recommencent un peu à nous casser les pieds. Mais rien ne nous empêche de nous demander comment nous tentons d'affronter nos propres situations de détresse. Il faut bien le reconnaître, notre quotidien se déroule selon ses propres règles sans que nous puissions vérifier une quelconque présence divine au beau milieu de nos activités parfois, dans l'encombrement de nos journées. Le tragique, c'est toujours l'inattendu. C'est ce qui arrive dans une situation comme celle que Marc décrit à bord du bateau, alors même que Jésus dort à l'avant comme si de rien n'était. L'angoisse des disciples est compréhensible, vu la situation, et pourtant personne n'est coupable de négligence. On ne peut montrer personne du doigt, enfin en principe. C'est sans doute la première leçon à tirer de ce récit. Les circonstances qui nous accablent parfois n'ont rien à voir avec ce que nous appelons la foi, comme si elle était intimement liée ou directement proportionnelle à notre capacité de sortir de situations difficiles. Ce n'est pas toujours le cas, et nous le savons bien. Jésus embarque avec ses disciples et amis sur la même barque. Il ne les suit pas, ne les précède pas, il est dans la même queue. Et c'est surtout leur comportement qui est étrange face au drame qui se noue, face au danger. Leur premier réflexe, c'est de culpabiliser Jésus. « Tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. » Étrange comportement, et pourtant comportement familier. Nous avons tendance à chercher un responsable ou bien une explication à tout ce qui nous arrive, surtout si les circonstances sont difficiles à traverser. Et il n'est pas facile d'y résister, mais c'est surtout une arme à double tranchant. Nous ne sommes effectivement pas responsables des coups de vent qui peuvent parfois nous renverser, mais l'absence de raison nous pousse parfois à chercher la responsabilité ailleurs que chez nous. Alternative mortelle, culpabilité maladive d'un côté, ou de l'autre côté, recherche de bouc émissaire. C'est un piège, bien sûr, et ceux qui sont sur la barque ne peuvent rien contre le vent qui risque de les faire chavirer, alors ils se rabattent sur le plan B, celui qui a assez de confiance pour dormir du sommeil du juste. Celui-là est coupable de ne pas se réveiller au bon moment. Parce que c'est plus fort que nous, nous cherchons forcément un coupable ou bien une explication, même si elle est mauvaise. C'est probablement dans ces moments-là que nous montrons à quel point notre confiance est faible, voire inexistante, à quel point elle n'est pas notre pente naturelle. Il faut à la fois l'assumer et bien sûr ne pas s'y résigner. La suite du récit est encore un peu plus troublante, elle ne résout pas forcément notre affaire. On y apprend qu'avec une foi suffisante, on triomphe des événements, alors que l'expérience nous apprend fréquemment que c'est le contraire. Nous pourrions passer beaucoup de temps à recenser les situations où l'issue heureuse se fait attendre. Mais ce n'est pas la foi qui est en cause ici, là encore. Si le texte présente une issue heureuse malgré tout, c'est parce que malgré l'hostilité présente dans le monde, promesse nous est faite d'avoir une certaine autorité sur les événements, même sur une tempête qui se présente. Alors peut-être pas de manière fracassante, c'est ce que semble indiquer l'expression « il se fit un grand calme ». C'est la manière dont la foi se ferait un passage au milieu de cette tempête. Elle dit surtout les effets de la présence de Dieu d'abord en nous, c'est-à-dire la manière dont nous le manifestons, et il faut l'espérer, avec un grand calme, une grande sérénité. Quand nous en sommes capables, nous pouvons enfin regarder au-dessus du flux des événements, au-delà du tumulte, et apercevoir, un jour, un peu plus tard, ce grand calme qui dépend de nous, même si nous savons qu'il est provisoire. Alexandre Dumas écrivait « La vie est une tempête, mon jeune ami. Vous vous prélasserez au soleil un instant, vous serez brisé sur les rochers le lendemain. Ce qui fait de vous un homme, c'est ce que vous faites quand cette tempête arrive. » Il y a certainement quelque chose à reprendre de cette invitation au courage et à la détermination, à la sérénité aussi. La foi se joue ici à égale distance de la résignation et de l'agitation vaine. La seule chose à faire dans la tempête, c'est de garder le cap et de garder son calme. J'avais aussi trouvé une autre citation qui disait « Le rhume est une tempête sous narine ». Mais ça n'allait pas avec le texte, donc j'ai préféré la première. Amen.